Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
Et à 19h20 sur RTL, on va refaire le monde avec ce soir Anne-Sophie Mercier. Bonsoir Anne-Sophie.
Bonsoir Marco.
Collaboratrice au Monde et au Point. Bonsoir Hervé Chabalier.
Bonsoir.
Journaliste fondateur de l'agence Kappa. Bonsoir Charles Bigbédé.
Bonsoir Marc-Olivier.
Secrétaire national UMP et chef d'entreprise. Bonsoir Yvan Youfol.
Bonsoir.
Éditorialiste au Figaro. Le premier sujet, la Corse et ce 17e mort depuis le début de l'année. Manuel Valls et Christiane Taubira envoyés sur place par le président et le premier ministre pour donner un signal fort de l'État. Alors le mot « affairisme » a été employé un nombre incalculable de fois. Le mot « mafia » a été prononcé par la garde des Sceaux et par le Premier ministre d'ailleurs. Et un appel à briser l'omerta a été clairement exprimé. Alors le problème corse ce soir est cet appel à la délation. Qu'en dit-on sur les réseaux sociaux pour démarrer, Benoît Galeret de LCI, bonsoir.
Bonsoir, bien sûr les réseaux, on prend la situation corse au sérieux. On a tendance à partager l'analyse du ministre, ainsi résumée par Louis, qui sème l'omerta récolte la mafia. En revanche, l'appel de Valls à briser ce silence semble bien naïf. MDR, mort de rire, explose Jean-Marc. C'est gagné d'avance, encore une belle déclaration qui restera lettre morte. Un nouveau comique est né, soupire Laurent. Briser l'omerta, ok, mais Simone rappelle aux Corses, pour ce faire, l'utilisation d'explosifs n'est pas obligatoire. Parole, brassage d'air, aucune efficacité, doux rêveur. Les internautes sont peu convaincus, vous l'aurez compris. Ce serait même carrément dangereux. Briser l'omerta en Corse, c'est vouloir plus de morts, selon Didier, qui traite Valls de nul. En colère également, Nicolas. Valls aurait mieux fait de rester sur Paris. Parler d'omerta alors que la police connaît tout des voyous et ne fait rien, c'est scandaleux. Bref, Valls dit « en Corse, on sait, mais on ne parle pas ». Claude lui rétorque « tout le contraire du continent ».
Hervé Chabalier, briser l'omerta, un vœu pieux, brasser de l'air, comme pensent les internautes hein.
Je crois que c'est malheureusement pas l'essentiel. D'abord parce que ça va être très compliqué. Vous savez, il y a 300 000 Corses environ qui vivent sur l'île. Et ils sont tous reliés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre, familialement. En tout cas, le système clanique est toujours là. Mmh. Et il est extrêmement difficile dans toutes ces affaires qui ne concernent que des Corses. Puisqu'en dehors du préfet Erignac, toutes les personnes qui ont été tuées ces dernières années sont Corses. Ça se passe entre Corses. Il n'y a pas des gens du continent installés en Corse. Il n'y a pas d'immigrés, il y en a quelques-uns en Corse, qui sont affectés par tout cela. Donc ça va être très compliqué. D'abord parce que les quelques
Corses... Mais c'est le fruit d'une minorité, rappelé tout à l'heure les deux ministres. Oui, tout le monde se connaît, comme vous dites, mais les violences, c'est le fruit d'une minorité qui dessert la majorité.
Bien sûr, c'est une minorité, mais qui est liée à la majorité par des liens familiaux, des liens de dépendance, des liens culturels évidemment très forts. Et c'est bien là le problème, c'est que aujourd'hui les gens qui sont allés, il y en a qui ont essayé d'aller porter plainte ou parler dans les gendarmeries. Et bien avant même qu'ils ne soient sortis, et c'est pour ça qu'il y a cette défiance vis-à-vis de l'État aussi en Corse, avant même qu'ils ne soient sortis, déjà on savait à l'extérieur que la personne était venue dénoncer quelqu'un.
Anne-Sophie Mercier.
Moi je trouve ça un peu curieux cet appel à la délation. Ce qu'on attend en Corse, c'est que l'État rétablisse l'ordre. Donc ça passe par la police, ça passe par la justice et ça passe pas forcément par un appel aux citoyens qu'on met, comme le dit très justement Hervé Chabalier, dans une situation très compliquée d'ailleurs, qui d'ailleurs n'iront pas.
La ministre de la Justice rappelle que l'anonymat est garanti, la loi le permet.
L'anonymat n'est pas forcément garanti parce que tout le monde se connaît et ça marche pas comme mais il faut rétablir l'ordre, donc ça passe par un effort au niveau de la police et de la justice et moins par un appel aux citoyens.
L'anonymat n'est pas vraiment garanti. Ce qui existe actuellement, nous, c'est, en France, c'est un système de témoignage sous X, mais il n'est pas du tout suffisant. Il n'est pas garanti. Il peut y avoir des problèmes de vengeance personnelle de témoins. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sécurité des témoins n'est pas garantie. On est très loin de ce qui se fait dans certains pays de l'Union européenne et bien sûr de ce qui se fait aux États-Unis où il y a des vrais programmes de protection des témoins.
Il y a le problème des Corses, on vient d'en parler, mais il y a le problème de la représentation de l'État en Corse à travers ses forces de police et de gendarmerie qui ne sont pas toujours très claires, loin de là. Pas très clair, parce qu'effectivement, il y a aussi des liens entre les gendarmes, un certain nombre d'entre eux, et les milieux affairistes, c'est évident. Donc, la seule manière d'arriver à régler un peu, j'espère, le problème, c'est d'aller sur les flux financiers. Puisqu'en fait, il s'agit aujourd'hui que ce soit des nationalistes qui sont devenus affairistes ou que ce soit des mafieux tout court, tout passe par l'argent.
Oui, donc le travail... Ils l'ont rappelé. Hein. On peut saisir, en Corse comme ailleurs, les biens mal acquis.
Oui, mais c'est pas ça. C'est simplement qu'à partir de l'étude des flux financiers, on peut voir ce qui est mafieux ou ce qui ne l'est pas.
Yvan Rioufol.
Cette question est récurrente, naturellement. Elle ne date pas de la venue, de la survenue du socialisme en Corse, naturellement. Donc il faut déjà...
Il faut déjà disculper
ce gouvernement-là qui a eu raison... malgré tout, de venir immédiatement en Corse, qu'il n'avait pas fait précédemment pour l'autre assassinat, car il y a naturellement, il faut symboliser ce que n'est plus la présence de l'État. Donc il faut d'abord que l'État soit naturellement présent. Ça a été dit à travers la police, la gendarmerie, et à travers surtout un travail de renseignement, parce que quand on parle aujourd'hui d'omerta, nous parlons donc de pratiques mafieuses. Et ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de lutter contre une mafia. Ce n'est pas de lutter, et on ne peut pas laisser croire que l'ensemble du peuple corse, si je puis parler ainsi, serait solidaire d'une mafia. Et donc il y a là une verrue, un cancer qui doit...
Il faut aller taper, quoi.
Il faut frapper. Alors ce que je n'ai pas compris, c'est que moi je serais assez pour, dans le fond, une sorte de cellule anti-mafia, comme on en a vu en Italie notamment, mais j'ai entendu tout de suite Mme Taubira qui a dit qu'elle n'en voulait pas parce que l'État ne devait pas être un État Rambo. Et donc il me semble que là, la présence de Mme Taubira comme message adressé aux Corses, aux terroristes corses, aux mafieux corses, est un message qui a
Vous voulez dire que Mme Taubira est trop laxiste et qu'elle est le symbole du laxisme.
Je ne dis rien de tout cela. Je dis que Mme Taubira n'a pas dû impressionner considérablement les mafieux corses.
Ce n'est pas Mme Taubira spécialement. C'est que les mafieux corses sont rarement impressionnés par un ministre.
Entendu.
Mais
quand un ministre nous dit, malgré tout, face à cette mafia qui en est une, qui a été désignée, qui est avalisée, y compris par les membres du gouvernement, nous dit qu'elle ne veut pas d'un État Rambo, c'est-à-dire d'un État fort, d'un État qui tape la mafia, eh bien je pense qu'elle fait une erreur de diagnostic.
Hervé Chabanier ?
Oui, simplement, si on regarde la personne qui a été tuée, qui était à la tête de la chambre de commerce...
Un proche d'Orsoni, puisque maintenant, le parrain officieux, on ne peut pas le dire comme ça, parce que c'est Orsoni, et c'est le quatrième proche d'Orsoni.
Oui, mais il a succédé à deux autres personnes qui, elles-mêmes, avaient été emprisonnées pour malversation, et dont deux ont été tuées. Ça veut dire que ce centre de commerce et de l'industrie, c'est aussi un endroit où se joue l'attribution des marchés, où se joue la possibilité d'avoir des emplois. Donc c'est de l'affairisme et c'est même du nationalisme affairiste.
Mais si on veut aller au fond des choses et comprendre ce qui se passe vraiment, il va falloir qu'on obtienne des informations par des repentis. Et donc, il faut mettre en place un programme de protection des témoins digne de ce nom pour qu'on ait un repenti, comme ça s'est fait en Sicile.
Et dans une île, c'est compliqué.
Demain, Manuel Valls, invité de RTL à 7h50. À suivre, la tractation de Renault. Je ne ferme pas d'usine en France. Vous acceptez des compromis, de la flexibilité, notamment sur le temps de travail. On en débat dans un instant écœurant, nous a dit tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, invité de RTL.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchière.
Et on refait le monde ce soir avec Anne-Sophie Mercier, Hervé Chabalier, Yvan Rioufol et Charles Becbédé. Le deuxième sujet, un compromis historique. Vous en souvenez, c'est ce qu'a réclamé François Hollande mardi lors de sa conférence de presse. Les partenaires sociaux doivent proposer d'ici la fin de l'année une ambitieuse réforme du marché du travail. C'est un peu la quadrature du cercle. Comment donner plus de protection aux salariés et de souplesse aux entreprises? En tout cas, Renault a déjà proposé de s'engager à ne pas fermer ses usines contre plus de flexibilité. Alors, faut-il travailler plus pour gagner moins, mais au moins avoir du travail? Qu'en dit-on sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret?
C'est pas très bien reçu, c'est moins qu'on puisse dire. Quand BFM TV annonce ce deal de Renault avec ses salariés, moi, rétorque aussitôt, c'est pas un deal, c'est du chantage. N'importe quoi, la joue provoque sous le mot-clé « lutte des classes ». Donc, en gros, Renault accepte de payer la vaseline si les syndicats acceptent de baisser leurs pantalons. Plus classe, Pascal Boniface, directeur de l'Institut Iris, s'étonne. Ghosn demande aux ouvriers d'être flexibles sur leurs conditions de travail. Pourrait-il l'être sur son salaire? Sachez que le sien est de 10 millions d'euros par an, affirme Claude, soit 466 fois celui d'un ouvrier, calcule un autre internaute, Christophe. Renault met en concurrence ses usines françaises et espagnoles et ses dernières avec les roumaines afin de tirer tous les salaires vers le bas. On entend surtout la gauche, logique, elle s'étrangle, chantage à l'emploi, austérité imposée aux salariés, explosion des troubles de la santé, c'est le nouveau modèle Renault, dénonce Bastamag, qui parle sur son site de régression sociale généralisée.
Un chef d'entreprise, Charles Becbédé, vous en pensez quoi de ce chantage dénoncé également par Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure sur RTL ?
Non, mais c'est pas du tout un chantage, c'est intelligent. Je vais vous expliquer. Je vais tenter d'expliquer pourquoi. Ça s'inscrit dans la philosophie des accords de compétitivité qui avait été évoqué par Nicolas Sarkozy, et puis qui s'inspire de ce qui se fait dans l'industrie allemande. Il s'agit de permettre des accords où on échange de la souplesse contre le fait de ne pas licencier quand il y a une baisse d'activité.
Ça, excusez-nous, c'est intelligent, on avait compris ça.
Oui, mais après, alors, mais c'est très simple, donc on va...
Après, est-ce que c'est moral
au niveau
ou pas,
d'une entreprise, avec accord d'une majorité des représentants du personnel, on réduit ponctuellement le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, on va mettre en place du chômage partiel, c'est-à-dire qu'il y a quelques salariés qui ne vont pas aller travailler pendant quelques jours, quelques semaines, ils vont pouvoir se formés pendant ce temps, ils toucheront des indemnités chômage qui compensera l'activité partielle. Et puis, donc c'est, moi je pense que c'est plutôt gagnant-gagnant. C'est ce que font
ça,
les Allemands.
C'est ce que veut le BDF, c'est pas chez Renault. Chez Renault, c'est pas exactement ça. Chez Renault, ils disent on ne ferme pas les sites si effectivement, puisqu'ils ont fait maintenant deux gros pôles de production, le Nord et le Nord-Est, enfin bon, peu importe, en disant si vous acceptez, en fonction de la charge de travail que l'on a sur un site, d'aller travailler dans un autre site où on a besoin de plus de main-d'œuvre, alors il faut accepter de le faire. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que Renault veut essayer de concentrer ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas directement la production pour faire des économies. Sur ces deux points, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il faut faire cela. Mais le problème, c'est le reste. Est-ce que c'est, puisque c'est le début d'une négociation, est-ce que c'est un point parmi d'autres? Et de ce point de vue, les ouvriers de Renault en France ont raison de regarder sur les accords qui sont d'être passés en Espagne, à Palencia notamment. Ou alors là, je peux vous dire, c'est allongement de la durée du travail, plafonnement de la hausse des salaires à moitié de l'indice des prix, nouvelle grille pour les salaires d'embauche, moins 28%, réduction des primes. Alors si c'est le début de cela, évidemment, en plus il y a...
La porte ouverte au n'importe quoi, Charles
Becbédé. C'est mieux qu'un plan social.
Non mais d'accord.
Les ventes de voitures ont baissé de 25% cette année. Il faut s'adapter.
Tout sauf de
virer les collaborateurs, je trouve. C'est ce que font les Allemands. C'est intelligent. Et puis comme ça, les usines sont prêtes pour un éventuel redémarrage dans quelques mois.
Moi, je trouve que je suis d'accord avec Becbédé. Charles Becbédé. Je trouve que c'est pas inintelligent. Il y a un effondrement de l'emploi industriel dans ce pays. Donc, faut bien faire quelque chose. Et les boîtes appellent à l'aide.
Les salariés disent. C'est pas à nous d'en payer les pots cassés.
C'est vrai que non, mais là où je suis d'accord, je trouve qu'il y a un des internautes qui avait raison, en l'occurrence Claude, qui disait si aussi les patrons pouvaient aussi faire un petit effort sur leur salaire quand la
Japon,
crise est là.
Par
voilà,
comme au Japon.
On serait content de voir Carlos Ghosn faire aussi un effort sur son salaire quand ça se passe mal.
J'ai parlé d'indemnité chômage qui peut être injectée dans le système, de la formation professionnelle, et effectivement l'employeur peut aussi faire un petit geste contre de la souplesse.
Oui. Yvan Rioufol ?
Oui, je trouve que tout a été dit. Dans le fond, je trouve que c'est une bonne solution. Je comprends parfaitement que les syndicats hurlent, puisqu'en fait, ce qui est en cause aujourd'hui, ce sont à la fois et le SMIC et les 35 heures, c'est-à-dire deux grands tabous du droit du travail qui sont en fait remis en question. Donc, les syndicats ont toutes les raisons de hurler naturellement. Mais moi, ce qui m'importe, ce n'est pas tellement la voix des syndicats, c'est la voix des salariés. Si les salariés acceptent ces solutions-là en fonction de la préservation de leur travail, c'est aux salariés de décider. Je pense qu'on verra d'ailleurs des oppositions entre les salariés et les syndicats, et ça posera la représentativité des syndicats.
Mais je voudrais ajouter
trois conditions. Oui. Ces formules sont acceptables à trois conditions. D'abord, naturellement, qu'il y ait une réciprocité vis-à-vis des salariés, la flexi-sécurité, la sécurité du travail, etc.
Que
tout le monde se serre la ceinture aussi. Qu'il y ait également une récompense à ces salariés si l'entreprise arrive à se sortir de ce marasme-là. Et la troisième condition, vous l'avez évoqué, c'est que les actionnaires, que les patrons, les actionnaires également ne se fassent en sorte de montrer un minimum de décence vis-à-vis de ceux à qui on demande de se serrer la ceinture.
Bien sûr. J'ai lu quelque part que sur le premier semestre de cette année, malgré la crise de l'automobile, comme vous disiez, Renault va faire 786 millions pour le premier semestre de bénéfices. Alors bon, moi ça me paraît normal que les entreprises fassent du bénéfice. Encore faudrait-il expliquer aux salariés à qui on va demander des efforts ce que l'on va faire de cet argent pour l'innovation, pour la formation.
C'est normal, archi normal.
Mais oui, bien sûr, mais est-ce qu'ils le disent? Est-ce qu'ils vont le dire? Est-ce qu'ils vont accepter que les salariés aient le droit d'avoir un droit de regard là-dessus?
Juste pour nuancer un petit peu ce que disait Yvan tout à l'heure, qui disait les syndicats vont hurler, etc. Il y a des syndicats qui ont beaucoup réfléchi à cette question de la flexibilité, en particulier la CFDT. La CFDT a beaucoup travaillé sur la question du chômage partiel et ils y sont assez favorables d'ailleurs. Donc le paysage est pas, c'est pas les salariés, les syndicats d'un côté, les patrons de l'autre. Je crois que tout le monde réfléchit un petit peu à trouver une solution.
En même temps, c'est difficile quand même quand on négocie de dire c'est ça ou c'est le licenciement. C'est ça ou la fermeture des sites. C'est là où on peut parler de chantage. Effectivement, dans une négociation, on ne peut pas faire ça.
Ce qui est surprenant, c'est de voir à quel point aujourd'hui la gauche, les syndicats évoluent à une vitesse faramineuse, moi je trouve vertigineuse, et qu'ils laissent tomber aujourd'hui tout leur dogme parce qu'on se rend compte que ça ne répond pas aux réalités.
Ce qui faisait dire donc tout à l'heure à Jean-Luc Mélenchon, c'est la méthode du revolver sur la tombe. Jean-Luc Mélenchon qui sera demain en meeting à Paris à 19h30, salle Japy, dans le 11e arrondissement. À suivre, la RATP qui refuse une campagne de pub du collectif contre l'islamophobie. C'est le détournement du serment de jeu de paume. Sur l'affiche, la quasi-totalité des citoyennes sont voilées et des citoyens sont barbus. On en débat dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
On refait le monde ce soir avec Yvan Rioufol du Figaro, Charles Bec-Bédé, secrétaire national UMP, chef d'entreprise, Hervé Chabalier, fondateur de l'agence Kappa, journaliste, Anne-Sophie Mercier, collaboratrice au Monde et au Point. Troisième sujet, vous connaissez certainement ce tableau, le serment du jeu de paume du peintre David. Le serment du jeu de paume, c'est, je vous le rappelle, cet engagement d'union pris le 20 juin 1789 à la salle du jeu de paume, c'était à Versailles donc, par les 578 députés du tiers état lors des états généraux de 1789. Leur engagement, ne pas se séparer avant l'élaboration d'une constitution. Alors aujourd'hui, le collectif contre l'islamophobie a détourné le tableau pour une campagne de publicité et à la place des députés, des citoyens, des hommes quasi tous barbus et des femmes toutes voilées et ce slogan... Nous sommes la nation. La RATP a refusé la campagne. Alors c'est bien la moindre des choses où c'est de l'islamophobie que la campagne justement comptait justement dénoncer. Il faut dire les choses, on va vous emmener en coulisses. Il devait être en ligne avec nous, ce comité, mais Yvan Rioufol, ils viennent de nous dire que vous leur faisiez peur. Donc courageux mais pas téméraire, est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur de vous, Yvan Rioufol?
Je suis très honoré s'ils ont eu peur de moi, je n'ai pas peur d'eux en tout cas.
Oui, bah oui, ils ont peur de vous en tout cas.
Et si ce que vous dites est exact, c'est absolument ridicule.
En revanche, précisément ce qu'ils nous ont dit. Hein.
Ah bon. Ouais. Bon, alors je vais leur redire ce que je leur aurais dit si j'avais pu les avoir en ligne, c'était de leur dire d'abord que je récuse ce terme d'islamophobie. Parce que ce terme a été inventé par l'Iran intégriste et il revient à interdire toute critique sur l'islam radical, sur l'islam fondamentaliste que représente ce comité-là. Donc, la première réponse que j'aurais voulu faire.
Sur la campagne elle-même, ces femmes voilées et ce slogan, hein, nous sommes la nation. D'ailleurs, pour terminer, vous laissez parler, la RATP dit, nous on n'a pas de problème pour afficher des femmes voilées, on l'a déjà fait, mais c'est nous sommes la nation qui pose un problème parce que la RATP ne diffuse pas de message politique.
Oui, c'est un message c'est une campagne qui est totalement contre-productive parce qu'elle met en scène une religion dans un espace laïque. C'est-à-dire que ce collectif est en train de démontrer ce qu'on le reproche précisément à cet islam radical, c'est-à-dire de refuser de s'intégrer et de s'approprier la nation. Et il refuse de s'intégrer dans la mesure où il présente des femmes qui affichent leur religiosité, si je puis dire, et naturellement, il s'approprie la nation à travers son slogan qui est de dire « La France, c'est nous ». C'est-à-dire que la France, c'est même plus... Je n'ai même plus une place. Il aurait pu dire « La France, c'est notamment nous » ou « Celle-là, c'est un
aussi
petit peu
nous ». Quoi.
C'est aussi nous. Non, mais la France, c'est nous. Ça donne argument à tous ceux qui disent qu'il y a effectivement une sorte de grand remplacement, de substitution de population et qu'il y a une sorte d'offensive islamiste. Et on en voit l'illustration un peu sotte à travers cette campagne.
Sans débattre là-dessus avec Rouffiol.
C'est là-dessus.
Je voudrais quand même dire que je voudrais savoir qui s'occupe de la communication de ce comité, parce que cette communication-là est absolument illisible. Mais je ne parle même pas du contenu, comprend rien. D'ailleurs, vous avez mis un certain temps, Marco, à expliquer ce qu'il y avait dedans.
La référence au jeu de paume
mais si vous avez besoin d'expliquer à ce point-là, c'est que le message n'apparaît pas, il n'est pas bon.
Mais maintenant, est-ce que le message vous choque?
Oui, moi il me choque ce message.
Il vous choque comme Yvan?
Il me choque parce que quand on va dans le détail, la représentation qui est faite est... c'est vrai des femmes voilées. Il y a une représentation d'un juif avec avec les petites, je sais pas comment on appelle ça, qui est quand même une minorité.
Et un curé en aluminium.
Un curé avec une. Non, je trouve que c'est, mais c'est une erreur totale de communication. Alors qu'il fallait faire au contraire une campagne sur. On est contre l'islamisme radical parce qu'on est des musulmans.
Il faut rappeler que le collectif contre l'islamophobie en France revendique notamment pas la burqa mais le voile. Enfin, c'est pas
de toute façon.
Mais c'est pas les femmes qu'on voit ne sont pas en burqa. Moi, ce qui m'intéresse, elles sont voilées. Alors, être voilée en France, ça n'est pas illégal. Ce qui doit poser problème à un citoyen, c'est une femme en burqa. Être voilée n'est pas.
La Révolution s'est battue pour la laïcité. Et là, vous êtes en train de
donner
caution.
Je voulais juste une chose. Je trouve que le message est intéressant. Quand le message qui est, nous sommes la nation, nous sommes dans le roman national, je trouve que le message est intéressant. Moi, pour le point, il y a deux semaines, j'ai réalisé une interview de Tariq Ramadan. Et Tariq Ramadan expliquait un truc intéressant. Il disait, les musulmans dans ce pays, ils sont là, ils ont des droits et des devoirs, mais ils ne sont pas dans le roman national. Ils n'en font pas partie. Et le fait qu'il y ait une campagne d'affichage.
Pour pouvoir débattre, est-ce qu'il n'aurait pas fallu plus de brassage dans l'affiche ? Ce ne sont que des femmes voilées.
Il y a une femme qui
n'est
pas.
Enfin, c'est un anachronisme total en plus.
Sophie, mais vous défendez l'indépendant, franchement.
C'est
là,
un anachronisme total.
On est dans le communautarisme
là-dedans.
Pourquoi ?
Mais parce que...
Nous, on est de cette nation, on est dans ce roman-là, on veut en être.
Mais il y avait mille autres façons de l'expliquer.
Je veux bien que ce soit maladroit. Mais le message pour un...
La question, c'est est-ce que c'est provoquant sur
moi ? Oui, c'est provoquant. Mais aussi, le message qui consiste à dire... on est dans ce roman-là, moi, je peux l'entendre en tant que républicaine.
Charles Becbédé, d'abord.
Sur la question, est-ce que c'est une bonne campagne contre l'islamophobie. Moi, je trouve que c'est idiot parce que d'abord, il n'y a pas d'islamophobie. Je pense comme vous, monsieur Rouffiol. Je pense que par contre, il y a une phobie contre les extrémistes. Il y a une phobie contre les intégristes et ça, c'est souhaitable. Il y a une phobie contre les islamistes, mais il n'y a pas de phobie contre l'islam. Par contre, il y a, c'est vrai, un déficit de connaissances mutuelles. Et c'est vrai qu'en France, il faut qu'on enseigne mieux les religions dès l'école. C'était d'ailleurs une proposition de Régis Debray. Et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Oui, mais... Et donc cette affiche, cette campagne, si c'était une campagne pour dire nous sommes la nation, mais où il y aurait aussi des catholiques, un peu plus de juifs.
Un brassage, quoi.
Un brassage, je trouve, c'est pas idiot. Parce qu'il y a une vraie ignorance.
Mais peut-être s'il y avait eu des musulmans, justement.
Des cultes de nos voisins.
Pas aussi typés pour dire les choses comme le sont.
Chacun est libre.
Il y en a beaucoup en France.
On est tous français et chacun a le droit d'exercer son culte.
De la même manière, mais j'espère avec plus de succès, lorsque Valls dit aux Corses, débrouillez-vous, c'est à vous les Corses de faire le nécessaire. Moi, je dirais de la même façon, c'est à vous, musulmans, de faire le nécessaire aussi pour combattre l'intégrisme islamique. C'est ça le message qu'il fallait faire passer.
L'affiche qu'on voit, c'est pas un message pro-intégriste, ça.
C'est un message qui défend une société multiculturelle et non pas une société assimilatrice, puisque on voit là des gens qui refusent de s'assimiler à la laïcité. Si vous êtes dans un endroit public avec des signes, simplement des signes religieux, et la RATP a eu raison en fonction de ce message-là de refuser cette campagne.
De toute façon, personne n'y comprendra rien à cette affiche. Voilà.
Et de toute façon, le collectif contre l'islamophobie ne va pas nous l'expliquer, puisque très lâche, ils ont donc refusé de débattre avec nous. Oui, très lâche, puisque quand on s'engage à quelque chose, on le tient et on n'annule pas une minute avant. Okay. Voilà.
Il faut juste le dire, il y a un juif bien reconnaissable sur la photo, il y a un catholique, il y a un message
documentaire. Les Français se reconnaissent en fonction de leur signe religieux.
Non, mais bien sûr que non.
Vous allez voir, c'est beaucoup moins sérieux. Le Beaujolais nouveau est arrivé. C'est bien le problème, on en débat dans un instant.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Faugier.
Allez, avant le dernier débat, on a continué à débattre pendant la pub. Et effectivement, sur l'affiche, parce que tout le monde n'avait pas lu le aussi, il est écrit « Nous sommes la nation » et avec en rouge à peine voyant, visible, pardon, le aussi. Nous sommes aussi, la nation, le aussi a été rajouté. Ouais,
mais
donc,
ça change tout.
Ça change pas mal de choses.
Ça change
pas mal de choses. Non, ça change pas mal de choses.
Nous aussi, on en est.
Vous savez, en juillet dernier, le racisme avait fait une grande soirée en disant la France, c'est nous. C'était un petit peu le genre, la même chose d'exclusion de ceux qui ne ressemblaient pas à SOS Racisme.
Allez, quatrième sujet très court. Comme tous les troisièmes jeudis du mois de novembre, le Beaujolais nouveau est arrivé. Celui-là, il paraît qu'il a le goût de pêche-vigne. Vous le savez, pour le Beaujolais nouveau, la commercialisation est autorisée immédiatement à la fin de la vinification. Alors, faut-il en finir avec ce vin qui ressemble à de la piquette ou au contraire, c'est une tradition à préserver? Très vite sur les réseaux sociaux.
C'est le sujet qui divise. Hein. Maude, c'est pas top le Beaujolais, juste un gros coup de commerce. Justin, allez, journée mondiale de la mauvaise piquette. Stéphane, plus méchant encore, c'est tellement dégueulasse que c'est forcément un truc inventé par des associations qui luttent contre l'alcool. Pourtant, nous apprend l'ISEG, les producteurs ont dépensé 1,5 million d'euros en communication pour ce nectar nouveau, mais leur avocat, il est sur les réseaux, leur meilleur défenseur, c'est Bernard Pivot qui tweete sans modération. Dénigré par principe ce vin, c'est comme critiquer un livre sans l'avoir lu. Il insiste, il nous dit que c'est la joyeuse irruption d'un nouveau-né en novembre, ce triste mois des morts. Je vous la fais courte, juste quand même un dernier pour la fine bouche. Le Beaujolais nouveau est un vin modeste et joyeux, apprécié surtout des hommes et des femmes joyeuses et modestes, détesté des notables.
On se rappelle du livre d'Hervé Chabalier, du livre qui, et du film qui a été adapté. C'était un dernier pour la route, hein, puisque vous racontiez justement votre dépendance à l'alcool et la façon dont vous en êtes sorti. Avis d'un connaisseur, donc, Hervé Chabalier.
Oui, bien sûr. Moi, je ne veux pas rentrer dans l'histoire de l'alcoolisme.
Non, pas du tout, c'est pas le sujet.
Je veux simplement dire que enfin, un repère que la crise ne remet pas en cause.
Le Beaujolais nouveau.
Oui, le Beaujolais nouveau, c'est le repère, c'est la France de la baguette, du béret et du Beaujolais pif. Et c'est une immense opération commerciale. Alors, contrairement à nos amis de Total dont on parlait tout à l'heure, eux, ils savent faire de la com.
Alors, non, mais vous disiez, Anne-Sophie, merci.
Non, moi, je suis... Qu'est-ce qu'il est bien, Pivot. Il a raison, novembre est un mois sinistre. On passe un bon moment à déguster ce Beaujolais. En plus, moi, j'aime bien le rituel des commentateurs. Il y en a qui disent, cette année...
Buvez du bon vin, si vous voulez.
Mais moi, j'aime aussi le mauvais vin, avec Chabalier. Franchement, j'aime bien la piquette, j'aime bien l'atmosphère des cafés, et boire de la piquette le soir avec des copains,
jamais j'abandonnerai.
C'est vachement
sympa. Faire la fête, on a besoin de liens sociaux, de convivialité, donc
aider
oui, 100%.
Aider les cafés aussi.
Même quand c'est pas bon, quoi. On fait la fête, même avec un Beaujolais pas bon.
Et puis en plus, c'est très bon pour l'économie française. Hein.
Ah ouais.
Attention, il y a la balance commerciale. Donc on en vend beaucoup à l'étranger. Au Japon, on
a quand même expliqué
des millions de bouteilles.
Que malgré le Beaujolais nouveau, les viticulteurs tiraient la langue et grave, et que le Beaujolais nouveau n'y changeait pas grand-chose. Yvan Rioufol.
Je trouve ça sympathique. Moi, j'ai participé beaucoup à des Beaujolais nouveaux il y a encore quelques années. Maintenant un peu moins, mais j'observe en plus que la qualité de ces Beaujolais qui n'était vraiment pas bonne il y a encore 20 ans, 25 ans, j'ai des souvenirs épouvantables de maux de tête le lendemain, mais je dois reconnaître que pour ceux que j'ai pu goûter ces précédentes années, il y a une vraie qualité.
Justement, sur la qualité, franchement, parce que moi qui n'y connais pas grand chose en vin, mais ça ressemble à du vinaigre souvent, ou à un truc qui ressemble pas tellement à du vin.
C'est un manque d'habitude, par contre.
J'entendais ce matin que ça avait le goût de pêche-vigne et aussi de frites, j'ai entendu quand même. Pour du vin de frites.
Selon Bernard Pivot, celui de cette année est un joli petit vin rouge rubis aux arômes de verger de curé et de rocaille d'instituteur. Bref, ça sent le moisi et le caillou. Quoi.
En tout cas, je peux vous dire que ça fait la joie des touristes, notamment des touristes américains qui n'y connaissent pas grand-chose en vin.
Et japonais qui adorent ça.
Et japonais non plus. Et qui sont là et qui voient, qui disent Paris restera toujours Paris.
Ah oui. Alors, j'ai quand même, ça m'a permis de parfaire ma culture, qui était déjà pas énorme, mais au moins là-dessus, j'ai l'historique quand même du Beaujolais nouveau. Le 8 septembre 1951, un arrêté paru au journal officiel dispose que les vins d'appellation d'origine ne peuvent pas être vendus. Pardon, je vais recommencer ça, c'était incompréhensible. Le 8 septembre 1951, il y a un arrêté paru au journal officiel qui dit que les vins d'appellation d'origine ne peuvent être vendus qu'à partir du 15 décembre. Je ne savais pas. Et c'est suite aux réclamations des syndicats viticoles qu'il y a une note du 13 novembre 1951 qui précise dans quelles conditions certains vins peuvent être commercialisés dès maintenant sans attendre ce déblocage du 15 décembre. Vous saviez ça ?
Ce qui n'a strictement aucun sens. Le vin, on le trouve partout, tout le temps, tout au long de l'année. Et ça ne veut rien dire. C'est un coût commercial, c'est un très bon coup de com. C'est comme la fête des grands-pères.
Ah non, et comme la fête de la gentillesse, tant que vous y êtes.
La fête de la gentillesse, c'est pas commercial. C'était nul, ça, non? C'est nul.
On est d'accord pour terminer là-dessus.
C'est sinistre, la fête de la gentillesse.
C'est une fête qui est maintenant depuis combien de temps?
La fête, trop longtemps, je dirais, moi, Yvan Rioufol. Mais moi, je ne suis pas polémiste.
Mais au moins 30 ans.
Ah oui, mais je ne sais pas, mais vous en pensez quoi, la fête de la gentillesse?
C'est une valeur forte, la gentillesse. Attendez, Francis Blanche disait, je peux me défendre contre la méchanceté, mais je ne peux pas me défendre contre la gentillesse.
Moi, j'ai jamais pensé que la gentillesse était un défaut. Je pense que c'est une vraie qualité,
bien sûr.
Alors là, c'était un Beaujolais nouveau en bas. Consensus sur la gentillesse, sur le Beaujolais nouveau. Donc on termine par des sujets qui vous
unissent. C'est de
l'enfumade totale.
C'est de l'enfumade, mais c'est aussi que du bonheur. Allez, on y va tout de suite.
Le bonheur de vous avoir entendu tous les quatre. Anne-Sophie Mercier, Hervé Chabalier, Charles Becbédé, Yvan Rioufol. Isabelle, après le flash de 20h, le club Lisa sur RTL.
On refait le match, peut-être, mais non.
Moi, je dirais que c'est le club Lisa, non. C'est pas votre soirée, moi, je dirais, Isabelle.
Ouais,
c'est le club Lisa.
Je suis blonde, je sais pas.
Vos questions au 32-10, moi, je dirais.
Si vous voulez.
On fait ça, le club Lisa avec Vicente Lisa Radio.
Vous avez raison.
Au lendemain du
match. C'était à 21h, j'ai sauté une ligne.
Ouais, il fallait pas sauter une ligne. Allez, moi, je vous retrouve lundi. Demain, vous avez rendez-vous avec Bernard Poirette à 18h.
Vous écoutez RTL.